Bon, donc nous sommes aujourd'hui plus au large et maintenant tout va bien parce que nous sommes dans cet amphithéâtre pour cette séance et la séance suivante au moins. Et ensuite, j'aurai sûrement dégoûté suffisamment de monde pour qu'on puisse retourner à Budé sans inconvénient. Enfin, de toute façon, on trouvera une solution. Donc, alors, je rappelle que le séminaire aura lieu à la suite de ce cours, qu'aujourd'hui, nous avons la grande chance d'accueillir André Vaucher, qui l'auteur, enfin, de beaucoup de livres, mais en particulier de ce grand livre sur François d'Assise qui a obtenu récemment le prix Chateaubriand, ô combien mérité, et qui parlera sur humilité et refus du pouvoir chez saint François d'Assise et dans la spiritualité franciscaine. Et la semaine prochaine, nous accueillerons Madame Claude Gauvard sur l'humiliation et la pratique judiciaire au XIVe et XVe siècle. Mais je commence mon propos. Donc, je continue ce cours qui porte ou qui portera, quand les prolégomènes en seront achevés, sur des récits médiévaux de l'abaissement, abaissement de l'humilité et surtout abaissement de l'humiliation. L'étude de la première n'étant là que pour permettre de cerner la seconde dans la perspective qui est la mienne. Pourquoi un cours sur des récits et non sur des traités, des analyses abstraites, des considérations générales? Je m'en étais expliqué. Sur des récits parce qu'un récit est un monde de signes et que l'humiliation n'est faite que de signes. Un fait est humiliant parce que son intention ou son interprétation en font un signe et inversement, un signe humiliant à l'efficacité du fait. Sur des récits, surtout, parce que le récit intéresse son lecteur ou son auditeur aussi bien à l'humilier qu'à celui qui humilie. Il tient le lecteur à distance de l'un et de l'autre, de tous les personnages, d'une façon générale, et il lui permet en même temps de s'identifier ou tout au moins de se mettre à la place de tous. L'artifice du récit littéraire permet de passer de l'un à l'autre et de donner à sentir ce qui est ressenti par chacun. La représentation littéraire de l'humiliation est donc plus saisissante, mais aussi plus éclairante même que son analyse abstraite, et nous sentons bien que le récit de l'humiliation est souvent pire que sa réalité, puisque l'humilié peut trouver en lui-même la force de résister à l'humiliation, tandis que le récit de l'humiliation impose de l'extérieur l'humiliation dans son horreur à celui qui le lit. Mais avant d'en venir enfin à la lecture de tels récits, il nous restait à montrer que l'opposition caractéristique du Moyen-Âge, je l'avais dit en commençant, entre une société de l'honneur, la société féodale, et une religion de l'humilité et d'un Dieu humilié, le christianisme, que cette opposition ne se laisse pas simplifier en opposition entre une culture de la honte et une culture de la culpabilité, équivalence facile en quelque sorte, dont j'étais parti. Car du XIe siècle au début du XIIIe siècle, le grand effort de la pensée morale et de la théologie morale vise à l'élaboration d'une doctrine de la pénitence qui passe par une réflexion sur l'intériorisation de la honte publique en sentiment de culpabilité, en même temps que sur une intériorisation de la notion même de responsabilité et de faute, et qui passe par la métamorphose de ce sentiment de culpabilité même en repentir par la conversion du cœur, comme on aurait dit à l'époque. Ce mouvement est très exactement celui qui va de l'humiliation à l'humilité. Humiliation de la sanction publique à l'humilité de la conscience de sa propre imperfection. Alors, j'avais entrepris un bref rappel de cette évolution si connue, si souvent étudiée. Je ne prétends pas être bien novateur dans ce domaine. Et j'en étais à cette survivance non de la pénitence publique humiliante, encore qu'elle n'ait jamais totalement disparu, que l'on songe à celle d'Henri de Plantagenet après le meurtre de Thomas Becket, mais la survivance de l'idée que la faute publique est plus grave que la faute privée. Survivance alors même qu'on est déjà dans l'ordre de l'intériorisation. C'était une idée qui avait été exprimée par saint Augustin, particulièrement dans son sermon 82, qu'un péché public doit correspondre à une pénitence publique et un péché secret, une pénitence secrète, ce qui donc rend le péché public pire et la pénitence pire. Et c'est une idée qui perdure très longtemps avec, justement, pour nous, ce pour corollaire, cette idée un peu étrange qu'une faute publique est plus grave à cause du scandale qu'une faute secrète. Et ainsi, je le terminais là-dessus la dernière fois, entre les trois résurrections opérées par le Christ, la fille de Jaïr, Luc 8, 41, 42 et 49, 56, sur le chemin de chez Jaïr, vous savez que le Christ guérit une hémorroïde, donc on va se séparer, le fils de la veuve de Naïn, Luc 7, 11, 16, et Lazare, Jean 11, 1, 45, ces trois résurrections interprétées comme l'allégorie de la mort par le péché et du salut apporté par la miséricorde de Dieu, une résurrection de la vraie mort, la mort par le péché, manifestée par une résurrection de la mort matérielle, eh bien, on voit une gradation, selon les exégètes de l'époque, on voit une gradation dans la gravité du péché mortel, de la fille de Jaïr, qui vient tout juste de mourir, alors que Jésus est déjà en route pour aller la voir, au fils de la veuve de Naïn, mort depuis plus longtemps, mais pas encore enterré, puisque Jésus croise le cortège funèbre aux portes de la ville, et à Lazare, mort et enterré depuis 4 jours, et qui sent déjà, comme le dit sa sœur. Donc le critère de la gravité est l'endurcissement dans le péché, le temps plus ou moins long pendant lequel le pécheur est mort à la vie de Dieu, mais aussi le fait que le péché est public, il est alors plus grave, et on est mort depuis plus longtemps, ou secret, et il est alors moins grave. Pardon, je sais... Et donc, il est moins grave. Et alors, on trouve ces considérations dans un certain nombre de textes, en particulier chez les prédicateurs, à l'époque carolingienne, dans un sermon de Aimon d'Auxerre, édité sous le nom de Aimon de Halberstadt dans la Patrologie latine, au tome 118, sermon 139, mais aussi de façon plus allusive, mais beaucoup plus tard, et chez le grand théologien de la responsabilité et du calcul, enfin le calcul est mal dit, mais de l'évaluation de la culpabilité en fonction de la responsabilité, Abélard, aussi dans un sermon d'Abélard, et encore à une date enfin aussi tardive que la seconde moitié du XIIe siècle, c'est-à-dire quelques décennies encore après Abélard, dans l'homiliaire de Maurice de Sully, qui a joué un grand rôle. Enfin, je m'en étais longuement occupé dans ma jeunesse. Vous savez, Maurice de Sully est l'évêque de Paris qui a lancé la construction de Notre-Dame de Paris, qui a fait construire Notre-Dame de Paris, et il a écrit un recueil de sermons pour l'ensemble de l'année liturgique, et puis pour certaines circonstances exceptionnelles, je ne sais pas, dédicaces d'une église, des choses comme ça, et, ou certaines fêtes exceptionnelles. Et de cette homilière, nous avons une version latine et une version française. Il est probable, quoi qu'on ait dit, que la version latine est tout de même antérieure à la version française. On n'est même pas sûr que la version française soit vraiment de Maurice de Sully. Mais enfin, c'est une traduction très fidèle. Et cette homilière a eu un succès énorme parce qu'il a servi de recueil de sermons modèles pour les prédicateurs. Il a servi en somme de dormi-sécouré, comme on disait, dort tranquillement. C'est recueil de sermons modèles qui évitait aux prêtres d'avoir à préparer son sermon. Et il a été imprimé, il a été utilisé pendant des siècles. On s'aperçoit que certains sermons du curé d'Ars sont... qui étaient notés à l'édition, les gens venaient, notaient fébrilement, et étaient décalqués de l'homilière de Maurice de Sully. De sorte que si on lisait Maurice de Sully, c'était comme écouter le curé d'Ars. Ce n'était pas du tout comme écouter le curé d'Ars. C'est ça la sainteté. Tous les prêtres de France récitaient les sermons de Maurice de Sully depuis sept siècles, et tout le monde dormait. Quand c'était le curé d'Ars, les gens se convertissaient comme des bouches. C'est ça. Je ferme la parenthèse et j'en reviens donc à la gravité des péchés. Donc c'est un sermon pour le 16e dimanche après la Pentecôte, et justement, l'évangile du jour, c'est la résurrection de la fille du fils de la veuve de Naïm. Et il parle des trois résurrections opérées par le Christ, et il dit, je vous lis le texte et la traduction en pensant aux auditeurs qui ne sont pas là, qui n'ont pas sous les yeux. La mesquine, ce ne fit ceux qui sont par malvolonté volonté repostent, en obscurcis de dans leur courage et décevrés de deux, et ne se veulent ne peuvent montrer par parole qu'elles souhaitent dehors et qu'elles souhaitent par malvolonté. Volonté. Car aussi est de la malvolonté volonté qui est dedans l'homme comme de la mesquine qui était morte dedans la maison son père. Les bachelier qui fut ressuscité devant la porte de la cité signifie celle qui malvolonté volonté en dehors et œuvre apertement. Saint-Lazare, qui avait quatre Georges eu le sépulcre, ce ne fit celles qui longuement ont été empêchées et qui sont autres-ci empêchées comme s'ils puissent, pour ce que tôt siècle s'espoante de leur malvaise vie qu'ils ont longuement menée. La petite fille signifie ceux dont le cœur est obscurci à l'intérieur par une volonté mauvaise cachés, qui sont séparés de Dieu et ne veulent ni ne peuvent révéler à l'extérieur par leurs paroles quels ils sont et quels ils sont par volonté mauvaise, car il en va de la volonté mauvaise qui est à l'intérieur de l'homme, comme de la petite fille qui était morte dans la maison de son père, donc la fille de Jaïr. Le jeune homme qui fut ressuscité à la porte de la ville signifie donc que signifie ceux dont la volonté mauvaise est extériorisée et qui agissent ouvertement. Saint-Lazare, qui était resté quatre jours dans le tombeau, signifie ceux qui sont restés longtemps dans le péché et qui sont dans le péché comme s'ils sentaient mauvais, parce que le monde entier est épouvanté de la mauvaise vie qu'ils ont longuement menée, qui sont au péché comme s'ils puissent, puisque j'en suis assisté des films idiots. Vous savez que dans les visiteurs, on dit ça puire pour dire ça sans mauvais, c'est-à-dire qu'il est clair que le metteur en scène, le scénariste Paquet, s'est renseigné pour savoir comment on disait sentir mauvais en ancien français, et il n'a pas pensé que l'ancien français est une langue comme une autre, où les verbes se conjuguent. On lui dit ça se dit puire, mais on ne dit pas ça puire, on dit ça puire. C'est absolument idiot. Mais la réflexion grammaticale de l'auteur du film n'allait pas jusque-là. Je reviens à Maurice de Sully. Ce qui est toutefois directement en cause ici, ce n'est pas la honte encourue par le pécheur, mais le mauvais exemple donné par le péché public. C'est ce mauvais exemple qui, en accroissant la gravité de la faute, entraîne l'exigence d'une réparation aussi publique que l'offense. Cependant, si, dès l'époque de la pénitence tarifée, la honte publique n'est plus nécessairement requise, nous l'avons vu avec l'exemple de Burchard de Worms, elle l'est évidemment encore moins dès lors que la tâche du confesseur dans le cadre de la confession individuelle est d'apprécier la responsabilité et donc le degré de culpabilité du pénitent. Et il y a un exemplum, enfin une tradition, enfin une histoire extrêmement célèbre qui est comme un exemplum secret de la confession, et un secret qui va au-delà même du secret de la confession, puisque la honte empêche la confession, c'est la messe de Saint-Gilles. Vous savez, la messe de Saint-Gilles, Charlemagne, dans certaines versions Charles Martel, dans la tradition littéraire, c'est Charlemagne a commis un péché tellement horrible qu'il ne s'en est jamais confessé. Et ce péché, c'est naturellement, c'est l'inceste commis avec sa sœur, dont le fruit est Roland. Roland n'est pas son neveu, mais son fils, selon cette tradition. Donc, il n'ose pas s'en confesser. Et Saint-Gilles sait qu'il a commis un péché horrible et, selon les versions, sait même quel est ce péché. Il sait bien quel est le péché. Mais il ne peut pas absoudre Charlemagne tant que Charlemagne ne s'est pas confessé. Puisque, justement, il faut la honte de l'aveu. Et alors, il dit à Charlemagne, écrivez. Dans la réalité, il ne savait pas très bien écrire, mais enfin bon, c'est peut-être appliqué. Écrivez votre péché sur un parchemin. Et alors Charlemagne écrit son péché et Saint-Gilles pose le parchemin, qui ne lit pas, plié, sur l'autel et il célèbre la messe en priant pour Charlemagne. Et à un moment, le feu du ciel, la foudre tombe sur l'autel et brûle le parchemin, ce qui est le signe de l'absolution, que la faute est effacée. Nous reviendrons dans un instant sur la question de la faute écrite, effacée, et que Charlemagne est pardonné. Donc le miracle, ce n'est pas, ou ce n'est que l'aspect visible et insignifiant, ce n'est pas que la foudre tombe et brûle un parchemin sur l'autel, c'est que l'absolution ait été accordée sans le passage par la honte de l'aveu, qui était honte qui était insurmontable pour Charlemagne. Et alors, si c'est quelque chose d'aussi exceptionnel, c'est que la honte est désormais intériorisée en repentir. Et ce qui est tellement important aux yeux de l'Église, que c'est le cas, ce qui est signifié par la formule du prophète Joël, dont l'Église n'a pas fait par hasard l'antienne d'ouverture de l'office du mercredi des cendres. Donc, à l'entrée de la période de pénitence par excellence qu'est le carême, à l'entrée de l'office à la fin duquel on reçoit les cendres, et donc cette marque, en somme, tangible de l'humilité ou de l'humiliation, pas d'avoir cette tache noire sur le front, à ce moment-là, l'antienne d'ouverture est « convertimini ad mea et dominus » Et scendite corda vestra et non vestimenta vestra, convertissez-vous à moi, dit le Seigneur, et déchirez vos cœurs, non vos vêtements, avec ce et non de la Vulgate, qui est un solécisme pour nos thèmes latins, mais que Saint Jérôme se permet à la place de nec. Donc l'expression visible du repentir substitue de l'humiliation publique d'une pénitence publique. Elle existe, ce sont les larmes qui sont le signe du repentir et qui sont exigées par la conception contritionniste de la pénitence. C'est quelque chose qui a été bien analysé. Enfin, il y a des travaux spécifiques là-dessus, mais Jean-Charles Payen, au début de sa thèse sur le repentir dans la littérature française, fait une excellente mise au point sur le contritionnisme. Donc, il y a à cette période du contritionnisme, il y a une intériorisation du sentiment de la faute, mais il doit y avoir une expression visible que la faute est ressentie, et une expression visible du repentir. Et ce sont les larmes. et qui ne sont, ces larmes qui ne sont pas, à une époque on pleure beaucoup, tout à où ces larmes ne sont pas une honte, mais une gloire. Le don des larmes est une grâce. On dit d'un saint qu'il avait le don des larmes. Et Saint Louis, qui n'avait pas le don des larmes, comme ça, Saint Louis, il ne pleurait pas, ou rarement. Enfin, il a pleuré à la mort de sa mère, il a pleuré à la mort de son frère. Mais enfin bon, quand il se confessait, il ne pleurait pas. Bon. Et il en était troublé, il en était inquiet. Il se demandait si c'était le signe d'un endurcissement coupable. Et il y a toute une série de contes pieux, de contes édifiants autour de ce don des larmes. Il y en a un qui est très connu quand même, certainement, et qui est, dont nous parlerons peut-être dans la suite de ce cours, et même sans doute, c'est le chevalier au barisel. Vous savez, ce chevalier endurci dans le péché qui, par dérision, se laisse entraîner à aller se confesser à un ermite. L'ermite, effrayé par tous ses péchés, lui veut lui imposer des pénitences terribles qu'il refuse toutes en ricanant. Et finalement, l'ermite lui dit « Vous voyez, j'ai plus d'eau dans mon petit tonnelet, mon barisel. Si vous voulez bien, allez me remplir mon petit tonnelet, mon petit barisel à la fontaine qui est au bout de la clairière. » Et alors, il dit « Ça, je veux bien. » Il y va, il met le petit baril sous la fontaine, il le plonge dans la source et pas une goutte d'eau n'entre dedans. Et alors il s'irrite, il est orgueilleux, il veut y arriver, il va à une rivière, il va à un lac, il se met en route, il court le monde pendant un an, et hirsute, dépenaillé, chaque fois qu'il voit une mare, une flaque, une rivière, il plonge son barisel sans succès, et au bout d'un certain temps, il rentre en lui-même et il mesure d'abord ce qu'il y a de miraculeux dans ce fait, et que c'est le signe d'un endurcissement extrême, c'est-à-dire que le ciel ne veut pas lui pardonner. Alors, c'est lié à d'autres questions théologiques, est-ce que l'absolution est donnée avant ou après la pénitence, enfin, n'entrons pas dans les détails. Et à ce moment-là, le repentir l'envahit, et il verse une larme. Et le hasard ou la pénitence, ou la providence, font que la larme tombe par la bonde dans le barisel, qui aussitôt est rempli, déborde, etc. Il revient trouver l'ermite. Mais enfin, je ne vais pas vous raconter l'histoire des fumants, d'autant plus que nous en reparlerons. Mais dans un des contes, dans le conte dit de Copeaux de la vie des pères, l'ermite impose comme pénitence un pécheur de trouver la source dont l'eau coule de l'aval vers l'amont, et pas de l'amont vers l'aval. Et alors, il court le monde entier, il ne la trouve pas, naturellement. Et il revient trouver l'ermite, et il est en larmes, et l'ermite lui dit « Mais vous l'avez trouvé, là, c'est la source des larmes qui remontent du cœur aux yeux, puisque dans le... les représentations médiévales, les larmes, c'est une eau qui naît dans le cœur et qui monte aux yeux. Et dans Crâne où la larme vaut eau du baptême, enfin bon. Mais c'est précisément le scrupule inquiet caractéristique de ces contes qui m'avait poussé à les intégrer au recueil du jongleur de Notre-Dame il y a une douzaine d'années, quand j'avais réuni des contes religieux du Moyen-Âge. Ce qui reste toutefois de l'humiliation primitive du pénitent, je reprends le fil de mon propos, enfin bon, c'est un fil, hein, si j'étais la parque, on mourrait, tout le monde mourrait, non, je ne sais si c'est le coupure. Donc, ce qui reste toutefois de l'humiliation primitive du pénitent, c'est la honte de l'aveu en confession. Et cette honte est traditionnellement considérée comme faisant partie intégrante de la pénitence. Toutes les ouvrages, les traités, à l'époque même, ça, sur la confession, sur la pénitence, le disent. Et les prédicateurs invitent sans cesse les fidèles à la surmonter, parce que c'est difficile, évidemment, d'aller se confesser. un exemple. Gilles d'Orléans, je prends mes exemples dans l'ouvrage de Nicole Berrioux. Je vous ai dit combien admirables sont les travaux de Nicole Berrioux, à la fois sa troisième cycle sur Ranulf de la Houblonnière et surtout sa grande thèse sur l'avènement des maîtres de la parole et sur la prédication à Paris au XIIIe siècle. Et alors donc, bon, elle connaît tous ses sermons dans tous les sens. Et voilà, elle cite un sermon de Gilles d'Orléans qui note que la question de Dieu à Adam, Adam qui se cache après la faute, et la question « Adam, où es-tu ?» Eh bien, que cette question n'est pas le signe d'une ignorance. Évidemment, Dieu sait bien où est Adam, puis il sait bien ce qu'il a fait. Mais c'est une invitation délicate à se montrer, à se révéler, à se confesser. Dieu donne une chance à Adam. Et je me permets de citer, d'après Nicole Berrioux, le passage dans le texte original, ensuite je ne donnerai que la traduction, mais enfin vous me direz là encore, hein, je romps le fil de la parque, mais ce latin qui n'en est pas, mais qui est un simple décalque du français, c'est extrêmement frappant et à sa manière très savoureux. Et d'ailleurs, dans un volume collectif qui vient de paraître sous le titre « Approche du bilinguisme latin-français au Moyen-Âge », Nicole Berrioux revient de manière comme toujours savante et brillante sur cette question dans une contribution qui est intitulée « Latin et langue vernaculaire dans les traces écrites de la parole vive des prédicateurs ». Parce que comme ces prédicateurs prêchaient, on connaît leurs sermons parce qu'il y avait des étudiants zélés qui prenaient des notes. C'est cette prédication universitaire, c'est maître de la Sorbonne qui avait le privilège ou le devoir d'aller prêcher dans toutes les églises de Paris. Alors, c'est du latin, mais c'est du latin vraiment macaronique, mêlé de français, c'est du latin qui a un décalque du français, et on ne sait pas trop si il prêchait dans cette langue mêlée, s'il prêchait dans un latin un peu meilleur, c'est le reportateur, s'il prêchait en français, ce qui n'est pas impossible, c'est plutôt l'idée de Nicole Berrioux qui prêchait en français, et que le reportateur retraduisait plutôt à mesure en latin parce que c'était une langue qui lui était plus familière pour des domaines de ce genre. Enfin, on ne sait pas trop. Beaucoup de ces prédicateurs aussi n'étaient pas français, ces maîtres de la Sorbonne. Enfin, voilà. Alors, Gilles d'Orléans dit ceci. Postquam Adam, j'ai à peine besoin de traduire après, mais je ne ferai pas. Postquam Adam transgressus est precemptum Dei, et fuit precipitatus in peccatum, de tam alto in tam bassum, fuit nudus et abuit pudorem de eva uxore sua, et e converso, et statim fugit prepudore sub uno boceto. Ça, c'est un mot qui n'existe pas en latin, sous un bosquet. Et dominus. Misericordia motus, diligebat hominem tantum, quod sine longa mora dominus accessit ad Adam in paradiso, et quasi vit exclamando, Adam, ubi es? Ubi dicit glossa, quod non fuit verbum ignorantis, sed ad confessionem vocantis, unde voluit, ex convidit quod ceciderat, ipsum excitare ad penitentiam et confessionem sui fore facti, ut sic aberet rationem miserendi ei. Sed dicet aliquis, Domine, Dominus, non vocat me, nec venit ad me quando peccavi, sicut venit ad Adam. Certe, imo ostendo tibi, quod ipsem et venit in propria persona, quia non estam vilis peccator parisius, qui si quereretur ab eo et velet dicere verum, utrum post peccatum suum unam suavem voluntatem abuit veniendi ad Dei misericordiam, veletiam abuerit, quod ausus esset hoc negare. Après qu'Adam eut transgressé le précepte de Dieu et fut tombé dans le péché, précipité de si bas, de si haut qu'il était nu et il eut honte vis-à-vis de sa femme Ève et vice-versa. Et aussitôt, il s'enfuit par honte et par pudeur sous un bosquet et le Seigneur, mu par la miséricorde, aimait tellement l'homme que sans attendre, il alla trouver Adam dans le paradis et le chercha en criant « Adam, où es-tu ?» Et à ce propos, la glosse, et la glossa ordinaria, cette synthèse exégétique, dit que ces mots ne manifestaient pas son ignorance, mais étaient une invitation à la confession par lesquels, voyant qu'il était tombé, il voulait l'encourager à la pénitence et à la confession de son forfait, de manière à avoir une raison de le prendre en pitié. Mais on me dira, vous me direz, « Maître, le Seigneur ne m'appelle pas et ne vient pas à moi quand j'ai péché, comme il est venu à Adam. Certes, je vais tout de suite te montrer qu'il vient lui-même, en personne, car il n'y a pas à Paris de si vil pécheur que si Dieu venait le chercher et si lui l'acceptait de lui dire la vérité, ou bien il aurait après son péché une douce volonté de venir s'en remettre à la miséricorde de Dieu, ou bien il l'aurait eu s'il n'avait eu l'audace de ne pas l'avouer. » C'est-à-dire, Dieu c'est un peu embarrassé. Hein, Dieu vient chercher tout le monde. Et, en fait, si, il vient te chercher. Et il suffit de surmonter cette petite honte pour être pardonné. N'est pas, et si on ne la surmonte pas, bon, on n'est pas pardonné, mais c'est pas parce que Dieu n'est pas venu vous chercher. Et alors, ce parallèle entre la honte que sa nudité inspire à Adam, le poussant à se cacher loin de Dieu, et la honte devant l'aveu du péché qui éloigne de Dieu et qui empêche l'action de sa miséricorde. On la trouve sous une perspective un peu différente dans un célèbre écrit franciscain des alentours de 1230, on anticipe sur le séminaire d'André Vaucher, qu'est le commerce sacré de saint François avec Dame Pauvreté, d'ailleurs sur lequel je reviendrai, j'aurai l'occasion d'en dire quelques mots bientôt. Et pour ceux qui étaient là il y a 2 ans, Jacques Dallarin en avait parlé magnifiquement au séminaire. Donc, Pauvreté dite à François et à ses compagnons qui sont venus lui rendre visite, Pauvreté dit à François et à ses compagnons qu'elle était au paradis avec Adam quand il était nu et donc pauvre, mais inconscient de sa nudité, et que Dieu, irrité après le péché, l'a éloignée, elle, Pauvreté, d'Adam. Adam, après le péché, a été désormais honteux de sa nudité, mais cette honte l'a empêché de revenir vers Dieu. Et bien plus, une fois chassé du paradis, Adam, vêtu de peau de bête, dit Pauvreté, met tous ses efforts à s'enrichir. Et Pauvreté ne peut que s'éloigner de lui. Vous voyez, cette interprétation de la nudité d'Adam et d'Ève au paradis, non pas seulement comme l'innocence, mais comme la pauvreté. Et une fois qu'ils ont péché, ils ont honte, et non pas seulement honte, cette honte sexuelle, en somme, de la pauvreté, de la nudité, ils ont honte de leur pauvreté. C'est ça, c'est le coup de génie des textes franciscains. Ils ont honte de leur pauvreté parce qu'ils sont nus comme des pauvres. Enfin, comme des pauvres, ils sont les seuls. Et donc, une fois qu'ils sont chassés du paradis, ils n'ont qu'une idée, c'est de s'enrichir pour se couvrir, pour être bien habillés. C'est le premier jour des soldes qu'on y songe. Et pardon, non, je retire immédiatement. Et le même Gilles d'Orléans, pour en revenir un instant encore à lui, invite plus vivement encore à vaincre la honte de la confession avec une comparaison qui est emprunté au monde chevaleresque, qui naturellement ne pouvait que plaire à son auditoire. Et là, bon, je ne vais pas vous lire indéfiniment du latin comme ça, je lis directement la traduction. Vous avez le texte latin, est « Diabolus dicit tibi naore, commodo de remi ludicere, pudor esset et obstruit tibi os. S'écoute. Bon. Le diable te dit à l'oreille, comment oserais-je dire cela ? Même pas oserais-tu, ça, le diable, c'est vraiment soi-même. Comment oserais-je dire cela ? J'aurais honte et il te ferme la bouche. De même que le cheval ombrageux est effrayé par l'ombre d'une pierre et recule, de même, beaucoup reculent en voyant l'ombre d'une petite honte que leur montre le diable. Et de même que l'ombre ne pouvait pas faire de mal au cheval, de même, cette ombre ne peut pas te faire de mal, car le cheval a peur d'une ombre absolument inoffensive, et celui qui hésite devant la recul, devant la honte de la confession, comme un cheval rétif, a honte lui aussi, a peur d'une honte inoffensive. Car le prêtre, je prends la citation, car le prêtre, même si on devait lui couper la tête, ne t'accuserait pas publiquement de ton péché. Et c'est pourquoi ceux qui sont de bons chevaliers piquent audacieusement les chevaux de leurs éperons de façon à leur faire sauter ce pas. Ainsi, ceux qui sont spirituellement de bons chevaliers saute ce mauvais pas de la honte, qui en réalité n'est pas une honte, mais le plus grand honneur qui puisse être sur la terre, car la vaillance de Roland ou de Renoir, qui a ce qu'on disait « tu es 10 hommes d'un seul coup », n'est rien à côté. Il tue tous les démons et les repousse loin de lui d'un seul coup, celui qui se confesse de ses péchés mortels. Et vous voyez, alors, ces comparaisons attrayantes, presque démagogiques, avec le bon chevalier qui est maître de son cheval. Bon, le cheval a peur de l'ombre du rocher, le bon cavalier ne se laisse pas désarçonner et il ne laisse pas le cheval reculer, il le force à avancer. Et la comparaison avec Roland et avec Renoir, Renoir au Tinel, Renoir à la massue, vous savez, dans le cycle des chansons de geste, enfin dans les chansons de geste du cycle de Guillaume d'Orange, Renoir est le frère d'Orable, l'épouse du roi sarrasin d'Orange, que Guillaume nommé ensuite d'Orange, épouse après avoir tué son mari. Il tombe amoureux d'elle, il va prendre Orange, tue le mari, l'épouse la veuve et il l'a convertie. N'est-ce pas ? Et Renoir, qui est le frère, qui est un géant, là, qui est garçon de cuisine chez l'empereur, finalement, baptisé lui aussi, révèle sa vaillance et effectivement accomplit des exploits extraordinaires, mais ce n'est pas vraiment un chevalier. Il a une massue, et avec sa massue, comme c'est un géant, il est capable d'en tuer 10, non pas des mouches comme le petit tailleur, mais des sarrasins d'un seul coup, et tout le monde est très content. Et donc, ces allusions littéraires. Enfin, donc là, ce prédicateur se permet exactement le même type de démagogie que moi. Donc, si forte soit-elle, la honte de la confession est supportable, dit Gilles d'Orléans, puisque seul en est témoin le prêtre qui est tenu au secret. Mais la peur d'être humilié par la révélation publique du péché au jour du jugement était quelque chose de très fort, c'était une très forte peur chez les fidèles. Et c'est une peur si forte que les prédicateurs, a relevé toujours Nicole Berrioux, en menacent plus volontiers les fidèles que des peines de l'enfer. Les fidèles semblent avoir plus peur de voir leur péché révélé à tous au jour du jugement qu'ils n'ont peur de l'enfer, parce qu'ils espèrent peut-être plus facilement échapper à l'enfer. Bon, ils ont commis des péchés c'est très gênant si tout le monde les connaît, mais enfin, ils ne valent peut-être pas l'enfer, donc ils échapperont peut-être à l'enfer. Puis la miséricorde de Dieu est si grande, etc. Mais quand même, que tout le monde sache tout ce qu'on a fait, effectivement, c'est un peu désagréable. Au jour du jugement, où tout sera révélé. C'est ce que chante, puisque c'est ce que chante le Dies Irae. Donc on ne pouvait pas enterrer quelqu'un sans entendre « Liber scriptus referetur in quo totum continetur ». On apportera le livre écrit dans lequel tout est contenu. Et le Nicole Berrioux cite un prédicateur, c'est un dominicain, qui décrit, il parle presque sur le jugement, il décrit la mise en scène du jugement. Le Christ siégera en juge, les livres des consciences seront ouverts devant lui, et tout le monde, les anges et les hommes, tout le monde pourra lire tous ces livres en même temps que lui. C'est pourquoi il est bon, conclut-il, de se décharger de ses péchés mortels dans la confession en faisant la paix avec Dieu, au lieu de courir le risque que le jour du jugement soit soumis à une telle honte devant toutes les créatures de Dieu. Et à ce moment-là, le reportateur, qui de temps en temps intervient, mais rarement, celui qui a pris en note le sermon, intervient probablement avec malice en disant qu'à ce moment-là, le prédicateur a été interrompu par des tas de femmes qui lui demandaient quels étaient les péchés mortels et combien il y en avait, etc. Enfin, qui voulaient se renseigner. Qui se disaient, mais tiens, si ça finit par se savoir, etc. Et alors, donc, et on se posait la question, donc toutes ces questions, c'est autour de la honte, de la révélation du péché, on se posait la question de savoir si les péchés de chacun seront connus de tous et s'il en résultera donc de la honte. Et alors, si on suppose qu'ils seront connus de tous, c'est très désagréable. Si on suppose qu'ils ne seront pas connus de tous, eh bien, il y a quelque chose de gênant dans l'idée de cette, comme on dit aujourd'hui, de cette transparence absolue, quand les élus seront en Dieu. À ce moment-là, ils doivent tout, ça devait être comme fondu en Dieu, partagé, ensemble, la connaissance de Dieu. Et alors, on a un sermon toujours à Paris de Saint Bonaventure. Donc, Saint Bonaventure était à Paris, puisqu'il occupait la chaire de théologie réservée aux franciscains. Et donc, comme les autres maîtres en théologie, il prêchait dans Paris. Et il a donné une solution originale dans un sermon au béguinage de Paris. Donc, il dit que lorsque. Oui, effectivement, tous les péchés seront connus. Et ce n'est pas lui qui le dit, ça avait été dit déjà par saint Anselme, qui est à la fois un grand au XIe siècle, qui est à la fois un grand philosophe et un grand théologien, qui à la fois a fait avancer, lui, avec son maître Alain Franc, d'abord, qui a fait avancer de façon décisive cette réflexion sur la pénitence, et d'autre part, vous savez qu'il est connu pour avoir inventé, avant Descartes, l'argument ontologique de l'existence de Dieu. En gros, Dieu, si Dieu existe, il a toutes les perfections, or la perfection, l'existence est une perfection, un être qui existe est plus parfait qu'un être qui n'existe pas, donc Dieu existe. Voilà. Et il avait été réfuté, d'ailleurs, sur le moment même, par le moine Gonilon. Et enfin, bref. Donc, Saint Bonaventure suit l'avis de Saint Anselme. Oui, tous les péchés seront connus, mais les péchés qui auront été confessés et absous apparaîtront alors. Ils n'auront pas été, leur existence n'aura pas été effacée. Comme disent les théologiens, l'absolution efface la culpe, pas la faute. Elle existe bien. Et donc, ils seront connus, mais ils seront connus non pas de façon honteuse, mais comme les glorieuses cicatrices d'un vétéran qui revient de la guerre. et qui a été blessé. Donc, d'un côté, ces cicatrices le défigurent, l'enlaidissent, mais elles sont là pour sa gloire et non pas pour sa honte. Et ils auront ces cicatrices que les vétérans sont fiers d'arborer devant tous, car ce sont les signes des prouesses accomplies à la guerre ou au tournoi, dit Saint Bonaventure, lui-même un peu démagogue, puisque l'Église n'approuvait pas les tournois. Et il dit, il est naturel qu'il en soit comme ça, puisque le Christ lui-même au jugement siégera-t-il pas en montrant les plaies de sa passion, alors que naturellement il aurait pu les effacer s'il avait voulu. Donc, loin d'être humilié, et là je cite Nicole Berrioux, loin d'être humilié, celui qui se confesse domine sa faute en l'avouant au point qu'elle devient le signe visible de sa sainteté. Par le recours au paradoxe des glorieuses cicatrices, ce renversement des valeurs devient plausible. D'ailleurs, effectivement, saint Augustin avait dit dans la Cité de Dieu que les cicatrices des martyrs, donc qui correspondent aux cicatrices du Christ, seront visibles pour l'éternité, idée reprise par saint Thomas et saint Bonaventure. Et c'est pourquoi c'est aussi pour qu'on les identifie, mais pourquoi on représente les saints avec leurs blessures et les signes de leur supplice. Non enim deformitas ineis et dignitas erit, et quidam quam vis in corpore, non corporis, sed virtutis pulcritudo fulgebit, disait Augustin, ce ne sera pas en eux une déformation, une déformité, une infirmité, mais une dignité, un honneur et une beauté en resplendira dans leur corps, non pas beauté du corps, mais beauté de la vertu. Alors, substituer à ces cicatrices celle des péchés pardonnés a évidemment une toute autre signification, et Nicole Berrioux a raison de dire que, loin d'être humilié, celui qui se confesse domine sa faute en l'avouant au point qu'elle devient le signe visible de sa sainteté. Mais on peut aussi le formuler autrement. L'humiliation de l'aveu est telle qu'il consentir que qu'accepter la honte de l'aveu en confession est un héroïsme dont la gloire l'emporte sur la honte de la faute, quelle qu'elle soit. Puisque ensuite, c'est un tel héroïsme que c'est presque l'héroïsme du martyr, et ensuite la cicatrice devient glorieuse. Et c'est ainsi que la réflexion sur la pénitence et sur la pratique de la conversion favorise l'approfondissement d'une réflexion sur l'humiliation dans ses liens avec l'humilité, et c'est pourquoi je me suis permis d'insister sur ce point. Et il y a toujours des dernières étapes, mais enfin, tout de même, je m'approche de ces récits et je gagne les récits à travers les traités, des traités de l'humiliation aux récits de l'humiliation. Au Moyen-Âge, le catalogue des vertus et des vices est un élément essentiel, chacun le sait, pour guider la pensée morale et même théologique. D'ailleurs, ça a été le cas très longtemps. Vous vous souvenez peut-être de ce passage dans le livre de mon ami où le petit narrateur, enfin qui dans le livre de mon ami ne s'appelle pas encore Pierre Nozière, donc le substitut d'Anatole France, doit aller se confesser tous les samedis à l'école, et alors il ne sait pas de quoi s'accuser. Il lit la liste. Alors, il y a une liste, justement, il y a une liste. Excusez-moi. Et il y a une liste des péchés, mais proches. Alors, bon, il pourrait bien s'accuser de simonie ou de concupiscence. Bon, c'est pas trop de ça. Et alors, comme vous savez, le passage est célèbre, il s'accuse d'avoir chippé et abîmé la casquette de Fontanet. Enfin, ça lui permet d'avoir quelque chose à confesser toutes les semaines, la casquette de Fontanet. Donc, même encore... au milieu du XIXe siècle, plus tard, il y avait ces listes de Berthier et de Vis qui servaient à cela. Mais ce catalogue fournit à lui seul leur plan à certains recueils d'exemplats, d'anecdotes édifiantes. Certains sont classés selon les sept dons du Saint-Esprit, etc., ou par ordre alphabétique, mais certains sont selon les vertus et les vices. Et puis, depuis la Psychomachie de Prudence, évidemment, ce catalogue nourrit une très forte tradition littéraire, la tradition des œuvres littéraires fondée sur le combat des vertus contre les vices. Et même dans la littérature en langue vulgaire, ce catalogue structure certaines œuvres ou fonde certains de leurs développements. Je parle Le Songe d'enfer de Raoul de Houdinck, Le Tournoi Antéchrist de Huon de Méry, le début du roman de La Rose lui-même avec les images des vices contre l'amour sur le mur du verger d'amour à l'extérieur, là, qui le garde. Le Pèlerinage de vie humaine de Guillaume de Digilville, qui s'inspire explicitement du roman de la Rose, mais dans une perspective religieuse. Ou encore ce poème de Ruth Boeuf, qui, de façon intéressante pour nous, est intitulé, selon les manuscrits, La voie d'humilité ou La voie de paradis. Et ou sur le chemin vers la pénitence, en réalité, non pas vers le paradis, le titre « Voie de paradis » n'est pas bon, Ruth Boeuf rencontre les vertus et les vices. D'ailleurs, dans mon enfance, j'avais un petit livre comme ça édifiant sur un petit garçon qui avait mangé trop de cerises, s'était endormi sur la branche du cerisier et faisait un rêve un peu lourd d'avoir mangé ses cerises qui le conduisait dans une ville comme ça, où il y avait deux rues, la rue des vertus, la rue des vices. Et rien d'étonnant donc à ce que le Moyen-Âge consacre des traités à l'humilité, réfléchisse à sa nature, à sa manifestation, à ses déviations, à son utilité pour le salut. Et surtout, si l'on songe que, j'avais dit en commençant, que l'humilité n'est pas une des vertus premières, c'est vrai, ce n'est pas une vertu théologale, ce n'est pas une vertu cardinale, mais l'humilité est l'inverse de l'orgueil, et l'orgueil est le premier et le plus grave des péchés, c'est le péché des anges rebelles. En revanche, en dehors des considérations que j'évoquais sur la honte du péché et de la pénitence, il n'y a pas de traité de l'humiliation, bien sûr, et c'est une raison de plus qui fait qu'elle ne peut être étudiée qu'à travers les récits qui en font état. Mais cela n'abolit nullement le lien entre humilité et humiliation. Juste poussé jusqu'au bout, le difficile paradoxe de l'humilité conduit à une fascination de l'humiliation qui ne trouve pas facilement une expression abstraite, mais qui se donne à comprendre dans le récit. Et c'est pourquoi, après, bon, explication lourde, il faut traverser rapidement les traités de l'humilité pour en venir au récit de l'humiliation. Rapidement, enfin, de dire d'abord, parce que je finirai par vous lasser, mais rapidement, et peu dire, parce que c'est les traités et les développements sur l'humilité sont innombrables. Et je ne dirai que quelques mots de quelques textes. Beaucoup d'autres mériteraient de nous retenir. Par exemple, j'aurais pu prendre le grand Pierre Le Chantre, dont on sait surtout, après, depuis les travaux de John Baldwin, la place centrale qu'il a occupée dans la vie intellectuelle, morale, politique, sous le règne de Philippe Auguste, au cœur de notre époque, et qui, dans le Verbum Abbreviatum, a des chapitres très intéressants sur l'humilité, les deux genres, les deux espèces de la mauvaise humilité. Il voit très bien le paradoxe de l'humilité. Et même un chapitre particulier sur l'humilité de la prédication. Voilà. Le danger de manquer à l'humilité de la part du prédicateur qui est fier de son succès. Et que j'en avais aussi tiré un petit conte là, dans le jongleur de Notre-Dame. Que, mais d'après quelque chose une anecdote touchant Saint Bernard dans la Légende dorée, que le paradoxe de l'humilité soit difficile, cela apparaît même chez Saint Thomas d'Aquin, qui a pourtant réponse à tout. Il a réponse à tout, mais il montre la difficulté. Vous voyez, sa définition d'humilité, « Humilitas et virtus quaquis consideransum defectum tenetse in infimis secundum modum sum ». L'humilité est une vertu par laquelle chacun, en considérant sa propre imperfection, juge qu'il est parmi les derniers selon son ordre. Et ce selon son ordre, qui n'est pas absolument clair, montre, est l'indice de la difficulté. Une chose est de se reconnaître imparfait. Ça va de soi, tout le monde se reconnaît imparfait. Une autre est de se juger plus imparfait que les autres. D'abord, ça va moins de soi. Tout le monde connaît la célèbre formule de Talleyrand, « Quand je me regarde, je m'inquiète, et quand je me compare, je me rassure ». Mais cette formule a quelquefois du vrai, il faut bien le dire. Mais surtout, si l'humilité est une vertu, comment celui qui a au moins cette vertu peut-il se juger inférieur à tous les autres, y compris à ceux qui n'en ont aucune et qui n'ont même pas celle-là? Alors, faut-il, à supposer même le plus grand pécheur du monde, mais il est humble. Et puis, il y en a un autre qui ne vaut pas mieux que lui, mais qui n'est pas humble. Alors, celui qui est humble comme il est humble doit se trouver inférieur à l'autre. Enfin bon, on n'en sort pas. Et alors, est-ce qu'il faut considérer que parmi les vertus du plus grand saint, il y a le fait de se juger de bonne foi plus imparfait que le pire des pécheurs? Dans ce cas-là, l'aveuglement est une vertu. Or, l'aveuglement n'est pas une vertu. Au contraire, le discernement est une vertu. Et pourtant, on en est toujours là, on ne peut pas se reconnaître la vertu d'humilité sans la perdre. C'est le paradoxe de l'humilité. En fait, j'en resterai là, c'est la théologie monastique. Saint Thomas, c'est par excellence la théologie scolastique. C'est la théologie monastique qui parle de l'humilité dans les termes les plus justes, parce que la démarche de la théologie monastique cherche moins la rigueur logique qu'elle ne s'interroge sur les cheminements et les manifestations de la grâce. Et l'humilité, c'est une grâce. Et c'est la théologie monastique qui, pour cette raison, parvient le mieux à surmonter le paradoxe de l'humilité et en même temps pressant le mieux son lien avec l'humiliation, et en particulier sous la plume des auteurs cisterciens, puis évidemment des auteurs franciscains. Et des uns aux autres, il y a dans beaucoup de domaines une surprenante continuité. Je dis surprenante parce qu'il y a en même temps une rupture radicale entre la conception de la vie religieuse qu'ont les ordres mendiants, et particulièrement les franciscains, et la vie monastique traditionnelle. Mais cependant, il y a une très grande continuité, mais nous examinerons ce point la semaine prochaine. Je vous remercie.